Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette histoire de savoir version vie pratique à l'ULB, histoire de savoir un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer un marathon radiophonique, puisque l'interview que vous allez suivre, s'étalera sur trois émissions. Pourquoi trois émissions? Parce que nous avons trois intervenants et parce que ce qu'ils racontent est particulièrement intéressant. Qui allons-nous entendre aujourd'hui? D'une part, Chloé Deligne, chercheuse et enseignante en histoire, Pierre Lannoy, chercheur et enseignant en sociologie, et Olivier Gosselin, chercheur et enseignant en archéologie. De quoi est-ce qu'ils vont nous parler? Pas de leurs disciplines respectives, ou quoique. Ils vont nous parler de désexcellence. La désexcellence, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposé de l'excellence. En quoi cette désexcellence est-elle un mouvement qui est né il y a déjà quelques années maintenant au sein des universités? C'est ce qu'ils vont nous expliquer. Et quelle est l'importance de cette désexcellence face à la loi de l'excellence que les universités s'imposent un petit peu partout? Nous allons voir ça avec eux, et puis surtout nous allons voir aussi l'impact que ces attentes d'excellence ont sur leur vie de chercheur et sur leur vie d'enseignant. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que une charte de la désexcellence vient d'être rendue publique il y a de cela quelques semaines, et donc voilà, c'était l'occasion parfaite pour en parler. Je vais donc leur laisser la parole dans quelques instants, Chloé Deligne, Pierre Lannoy et Olivier Gosselin. Chloé Deligne, Pierre Lannoy et Olivier Gosselin. Nous sommes ici autour de cette table pour parler d'une thématique que je ne pensais pas un jour aborder à l'université, mais qui me fait très plaisir. Nous allons parler de désexcellence. Alors, qu'est-ce que c'est la désexcellence? Qui se lance? Olivier Gosselin.
Bon, la désexcellence, comme son nom a l'air de l'indiquer, est une manière de réfuter la notion d'excellence. Mmh. Et donc c'est d'abord un terme, il faut bien comprendre, surtout humoristique, qu'on a inventé entre nous lorsqu'on a pris la mesure de toute une série de choses qui étaient en train de se produire dans l'université et notamment certaines orientations en matière de recherche surtout, d'enseignement aussi, qui se faisait au nom de l'excellence, dans un esprit d'accroissement constant de la qualité, de compétition, etc. Et donc c'est toute une série de mesures qui se sont mises en place depuis maintenant une grosse dizaine d'années, en tout cas, pour l'ULB, et des mesures qui nous semblent assez problématiques, voire catastrophiques dans certains cas, qui ont entraîné toute une série de nouvelles pratiques au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, qui sont de nature, tout semble-t-il, à détériorer certaines anciennes pratiques qui, selon nous, étaient de meilleure qualité, ou en tout cas étaient fondées sur des valeurs plus compatibles avec l'idée qu'on se fait de l'université. Donc voilà, c'est une manière de prendre le contre-pied de cette politique générale.
Oui, j'irais très clairement derrière le choix du terme. Il y a l'idée de montrer une volonté de critique d'une politique qui s'annonce sous les termes de l'excellence, mais qui se cache derrière. Donc, comme on parlerait désintoxication ou de décolonisation, on voulait garder le terme excellence, parce que c'est là, d'une certaine manière, la cible qu'on essaye de viser. Et dans ce mot, dans ce mot vide ou creux, en fait, il y a très clairement une orientation qui est donnée à la gestion des universités, aussi bien de la recherche que de l'enseignement, et une vision que nous ne partageons pas, qu'on a fait le constat qu'un certain nombre de gens ne partagent pas, non seulement à l'ULB, mais bien au-delà aussi, en Belgique et ailleurs. Et donc, voilà, le terme a pour objectif de rappeler ce contre quoi, d'une certaine manière, on s'élève.
Chloé Deligne.
Oui, c'est plus pour enchaîner, plus que pour rappeler la naissance de cette notion, c'est de se dire que si au départ, effectivement, il y a un côté humoristique, certainement, un peu subversif éventuellement, je pense que on y tient à ce terme-là. Ça arrive régulièrement qu'on nous dise, je dis dans le désordre, c'est pas sexy, c'est pas porteur, vous allez pas vous faire des amis. Bon, d'abord, c'est pas le but de se faire des amis, mais c'est de montrer où sont nos ennemis, donc ça va bien. Mais donc, c'est des remarques très très régulières sur ce terme. Et moi, j'arrête pas de dire que j'y tiens très fort à ce terme-là, pour une raison, mais il y en a sans doute d'autres, c'est que il est pas récupérable. Dans le sens où il y a peu de gens qui vont se battre pour se l'approprier, à part ceux qui y tiennent. Et ça, c'est une des raisons. Les autres raisons, je pense que c'est... Je ne parlerai pas d'effet de mode, mais d'effet de convergence. Ça se calque aussi pas mal sur des termes comme désobéissance, que Pierre n'a pas cité, je pense. Éventuellement, décroissance, qui est peut-être plus en vogue pour d'autres raisons, mais je pense qu'il y a des convergences à utiliser ces termes-là et que c'est une bonne chose.
Donc vous vous inscrivez, on va dire, dans un mouvement inverse, allant à contre-courant de ce qui se fait dans le milieu académique. Vous l'avez dit un peu partout, hein, c'est pas juste à l'ULB. Est-ce qu'on pourrait avant de plonger un peu plus dans ce qu'est véritablement l'objectif de cette désexcellence, ou de ce mouvement de désexcellence, peut-être plus. Aujourd'hui, en 2014, à quoi correspond l'idée d'excellence au sein d'une université comme l'ULB ?
Vaste question.
Et, à résumer en 180 secondes.
On reviendra sur ces 180 secondes, certainement. Vaste question, et en fait, question en toute gentillesse qui est vaine, parce qu'en fait, excellence ne veut rien dire. C'est un terme totalement creux. Qui était brandi d'abord par les marchands dans le secteur de production, qui était réapproprié par des managers dans les années 80, les années 90, et qui maintenant, en bout de course, a été approprié par les services publics, depuis 2000 par l'université, mais tout dernièrement, là je parle vraiment des tout derniers mois, le terme excellence, par exemple, est repris par la police fédérale, qui défend une idée d'excellence dans les pratiques par rapport à la population, c'est-à-dire nous tous, et la population considérée comme des clients.
Voilà. Pour appuyer sur le passage qu'Olivier mentionnait à travers le prisme du management, je pense que c'est vraiment ça qui est important dans l'émergence et la diffusion du terme excellence, c'est son passage par le management. Et qu'en fait, aujourd'hui, toutes les émanations de l'excellence ont un rapport direct ou indirect avec des méthodes de management, c'est-à-dire du capitalisme à outrance et de la monétarisation de tous les échanges. Voilà.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Donc, excellence est creux, si ce n'est que derrière, il y a bien une certaine politique, c'est-à-dire l'idée de mise en concurrence généralisée, ce que tu dis, Chloé, de tout, en fait, dans le monde. Et donc, maintenant, on en est venu au stade de l'enseignement et de la recherche universitaire. Donc, une mise en concurrence des établissements universitaires, à la fois sur ce qui devient un marché de l'enseignement, un marché des études, et le marché de la recherche, puisque aujourd'hui la recherche est l'objet de nombreux investissements, il y a des enjeux liés à ça. Donc l'excellence, c'est la mise en marché, la mise en concurrence des institutions universitaires, notamment à l'échelle européenne. Donc c'est une volonté politique extrêmement explicite, qui remonte aux années 90-2000 environ, de mise en concurrence, de fabriquer un marché de l'enseignement universitaire au sens du fait que les étudiants peuvent choisir leurs études, peuvent choisir les lieux où ils vont, les professeurs aussi. L'image de marque devient extrêmement importante. Du coup, dans ce paysage, comment se repérer ? Apparaissent les rankings entre universités. Donc, l'idée de classement des universités suppose leur concurrence. C'est lié. Et donc, c'est tout ça que désigne l'excellence. Alors, évidemment, les institutions veulent être les meilleures dans cette grande compétition et donc se disent toutes et toutes excellentes, puisqu'elles ne peuvent pas, de toute façon, dire autre chose. Et lié à cette idée d'excellence, bien sûr, l'introduction du management à la manière des entreprises, c'est-à-dire avec des objectifs qui ne sont plus que des objectifs quantitatifs, uniquement quantitatifs. Le management, c'est ça, c'est la gestion d'objectifs quantitatifs.
Et est-ce que c'est présenté comme tel par les universités, mais ici on va parler de l'ULB en particulier. Est-ce que quand dans un discours des responsables de l'université parlent d'excellence, est-ce que il y a vraiment tout ça qui fait suite, je vais dire, ou bien est-ce que l'excellence est, présentée sur un fond bleu pastel et violet, nous allons devenir les meilleurs et c'est quand même très bien.
Alors moi, je serais plutôt en faveur de la deuxième. De la deuxième hypothèse, en tout cas, il ne faut pas prendre les responsables de cette université pour des idiots. On peut dire tout tranquillement qu'ils ont certainement au départ à cœur la préservation, l'accroissement, la valorisation de l'institution qu'ils gouvernent. Donc tout ça est assez classique et n'est absolument pas neuf. Ce qui est différent et ce qui nous paraît assez grave de la part de ces mêmes responsables, c'est qu'en fait, on est dans une dimension qui est, d'une part, tout à fait paradoxale parce qu'elle est essentiellement incantatoire. Tout est excellent, tout est mis en valeur pour dire à quel point on est les meilleurs. Et l'attribution récente d'un prix Nobel à notre institution fait dire à nos responsables et à différents niveaux que nous sommes maintenant devenus des leaders en communauté française. Et en fait, on est vraiment dans une logique de cours de récréation, hein, qui a la plus longue, qui pisse le plus loin, et c'est ce qu'on est en train de dire pour l'ULB. Ça, c'est d'une part. Et on pourrait très bien rire de cette incantation, et surtout quand on travaille dans la maison, quand on travaille dans une université, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, savoir tout ce qu'il y a de réel à l'arrière de ce magnifique décor... et de ces dépliants très, très affriolants. Ce qui est plus grave, c'est que ce discours s'accompagne d'une série de mesures visant à concrétiser, ou en tout cas à prouver que cette excellence est atteinte. Alors, quand on reçoit, je parle là au niveau institutionnel, un prix Nobel attribué pour des recherches faites il y a une cinquantaine d'années, tout le monde est ravi et ce sont probablement, on peut le prendre comme une reconnaissance effective de la communauté de spécialistes. Mais il se fait que 50 ans plus tard, ce qu'on produit, ce ne sont pas des prix Nobel, ce qu'on produit, ce sont des indicateurs qui vont être utilisés par les équivalents dans le monde économique des agences de notation, les nouvelles agences de notation au niveau européen notamment, qui vont distribuer des bons et des mauvais points aux universités. Les différents classements, et on parle toujours de celui de Shanghai, il en existe d'autres, qui vont contrôler toute une série d'indicateurs qui vont permettre de savoir en quoi l'université... Qu'on étudie, dont on analyse,
qu'on évalue
exactement, en quoi elle est performante à différents niveaux. Et on va faire, comme l'a dit Pierre, du quantitatif exclusivement, et se préoccuper de moins en moins de la nature concrète de ce qui se fait, se préoccuper de moins en moins des contenus.
Alors, quels sont justement ces indicateurs utilisés pour évaluer les universités, pour les classer ? Sur quoi est-ce qu'on se base ?
Je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je suis absolument pas la bonne personne pour répondre à ça, tout simplement parce que je pense que ça n'a, je vais le dire, pas de pertinence.
Non, mais je suis assez d'accord.
Oui, mais donc ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui est évalué, parce que par définition, c'est pas les choses qui nous intéressent en tant que... comme chercheur, professeur, académique éventuellement. Voilà, donc...
Oui, si ce n'est que si les responsables des universités ont pour objectif de se retrouver le plus haut possible dans cette liste, pour eux, les indicateurs sont importants, puisque c'est ça qu'ils vont essayer de booster au sein de leur institution, je suppose.
Oui, en précisant une chose d'emblée, c'est qu'il y a un paradoxe dans le discours, le discours notamment des derniers recteurs, qui est capable de dénigrer les classements, les rankings et les indicateurs, mais qui en même temps incite, et c'est vraiment l'injonction paradoxale en permanence, incite à produire ces indicateurs. Donc, avant de les décrire, il faut dire qu'il y a cette espèce double jeu permanent et qu'on ne peut plus accepter un discours qui consisterait à dire « mais nous savons tous que ces indicateurs ne veulent rien dire », pas pour ce que tu dis, toi, Chloé, mais pour ce qui vient des autorités.
Mm-hmm. Pierre Lannoy, vous vouliez réagir.
Peut-être juste, effectivement, pour informer sur les principaux indicateurs qui ne nous intéressent pas au sens où on n'y croit pas, mais qui sont un peu nos ennemis quand même. Donc, on y est un peu quand même attentif. Par exemple, si on prend le cas des publications, c'est les fameux impact factors, c'est-à-dire l'impact qu'a un article publié, notamment en fonction du type de revue dans lequel il est publié. Et donc, il y a des revues qui ont des impact factors extrêmement élevés, et donc dans lesquelles on pousse les chercheurs à publier. Alors, évidemment, c'est des revues qui, comme par hasard, appartiennent à des gros groupes d'édition, etc. Donc, c'est pas tout à fait neutre. Et donc, ce genre d'indicateurs commence à rentrer dans les dossiers scientifiques, dans les évaluations, dans les promotions, etc. Avec tout le problème de savoir comment est-ce qu'on évalue ce que c'est l'impact d'un article. Il suffit de prendre l'exemple du prix Nobel. Si l'article initial, on devait mesurer son impact factor à l'époque où il a été publié, il est sans doute de zéro. Donc, il n'a eu l'impact que 50 ans plus tard. Donc, comment évaluer ce genre de choses-là, c'est effectivement très difficile. Après, il y a des indicateurs aussi, comme par exemple le nombre de thèses que produit une faculté, une université. C'est très clairement dans les discours institutionnels aujourd'hui, il faut produire des thèses. Il faut produire des thèses, parce que c'est le seul, peu importe ce que vont devenir ces doctorants et ces docteurs, peu importe sur quoi ça porte, il faut produire des thèses, parce que c'est un chiffre de productivité de l'université. Bon, voilà, sur le contenu, peu importe. Très concrètement, dans les plaquettes de présentation des universités qu'on donne dans les salons d'étudiants, c'est le nombre de prix Nobel, etc., ce genre de choses-là, qui peuvent être sans rapport aucun avec l'état actuel de l'université, et puis qui ne sont que des indicateurs, ça indique justement ce dont on veut parler, et pas tout le reste, Pour les principaux, il y a
les contrats aussi. Les
contrats, bien sûr.
Les sommes rapportées, le nombre de contrats, surtout les tout grands contrats européens. Il suffit de voir la fête qui se fait chaque fois qu'un contrat de recherche ERC est acquis par l'université. C'est vraiment une logique comptable, une logique fondée uniquement sur l'idée que la performance est quelque chose qui peut se mesurer de façon objective, standardisée, et est un indicateur de ce qui se fait en termes de qualité, est un indicateur tout à fait fiable. L'impact factor dont parlait Pierre, c'est un outil bibliométrique qui a été mis au point dans le domaine de la bibliométrie, qui est une science parmi d'autres, pas du tout avec pour vocation de tester ou d'évaluer la qualité, la performance des chercheurs. Il a simplement été repris et utilisé au moment où on était en train de mettre en place des grilles, parce que c'est ça le principe d'une évaluation. Il est extrêmement important d'évaluer, mais faire une évaluation est une chose extrêmement complexe, et on le sait tous, nous sommes en tant qu'enseignants-chercheurs amenés à devoir évaluer des projets, à évaluer des articles. C'est un travail terriblement complexe, chaque cas est différent. Or, ici, pour parvenir à être performant en termes d'évaluation, il faut avoir une procédure totalement standardisée.
Des cases à remplir.
Oui, tout à fait. Et la procédure standardisée fait que on a, je vais parler d'appauvrissement de l'évaluation, je crois que le terme appauvrissement est vraiment terriblement faible. En fait, on a tous été soumis à des formes d'évaluation qui sont d'une stupidité abyssimale. Les questions posées, les choses qui sont mises en valeur par rapport à nos pratiques d'enseignement, nos pratiques de recherche, on se rend bien compte que c'est sans relation, c'est sans rapport.
Oui, pour continuer sur l'aspect standardisation, Olivier parlait de la standardisation, du type de formulaire d'évaluation, des canevas d'évaluation. Mais la standardisation et l'appauvrissement est aussi très clair quand on va par l'autre côté de la lorgnette, c'est-à-dire quand on regarde, par exemple, les plaquettes de présentation des universités. Ça devient interchangeable. Bon, on change peut-être les noms de villes ou de pays avec lesquels on a des accords, le nombre de thèses, etc. Mais c'est toujours le même... Allez. Je pousse à l'extrême, mais on pourrait changer les noms d'universités en haut des plaquettes. C'est reproductible.
Oui, donc à part la couleur, il y a...
La couleur, voilà. L'image de l'étudiant africain qui fait bon genre dans une université blanche. Tous ces trucs-là, voilà. On peut vraiment... Je pousse à l'extrême.
Oui, mais donc ça veut dire qu'il y a...
Mais si on a ça en tête, ça devient flagrant.
C'est un lissage.
Standardisation, uniformisation, et aucun intérêt pour les contenus, puisque, et puis finalement, très peu de spécificité. Parce qu'on pourrait aussi se dire qu'on peut mettre ça en avant dans une plaquette d'université, mais non, c'est le nombre de masters, alors on va dire que c'est dans telle et telle matière, mais on ne pointe pas les spécificités non plus. Quoi. Donc voilà.
Et encore une fois, comme je le disais, on peut en rire, et le coût des plaquettes est totalement risible. On devrait d'ailleurs les aligner pour voir à quel point on est devant quelque chose de dérisoire. Le problème, c'est que nous sommes incités à produire ces indicateurs. Et une part de plus en plus grande de notre temps, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, est de pouvoir remplir les cases, ou de faire en sorte que ces cases puissent être remplies de façon correcte, susceptible d'améliorer le classement et l'image de marque de l'université. Or, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer ici, si vous faites régulièrement des émissions avec des chercheurs, les personnes qui vous écoutent le savent bien, la recherche s'inscrit dans un temps extrêmement long. La recherche implique une part d'incertitude énorme, une part de tâtonnement énorme, des erreurs.
Des impasses.
Bah oui. Des impasses, exactement. Ça, c'est la réalité de la recherche. Tout chercheur le sait très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans les cases pour ça. On a des cases qui ne permettent de remplir que la réussite, l'impact, le résultat, et tout ça de façon extrêmement rapide. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous trichez, nous trichons tous. Il faut bien se rendre compte que les cases qu'on nous demande de remplir, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que pour nous trois, on peut déjà le dire, si on a accepté, en tout cas je vais l'assumer seul, si j'ai accepté de jouer le jeu dans certains cas, c'est en remplissant de faux indicateurs, ou en travestissant la réalité, qui pour moi n'a aucun sens, donc je m'en fiche, ça n'a aucune implication. Ce que font des personnes qui sont plus engagées dans cette course-là, et tout particulièrement les personnes les plus fragiles, dans le système universitaire, c'est-à-dire les étudiants cherchant à avoir une bourse doctorale, les jeunes doctorants, les docteurs fraîchement diplômés essayant de continuer dans la carrière, etc. Donc ces personnes sont obligées de jouer le jeu. Et jouer le jeu, ça veut dire tirer au plus court, faire des projets et poser des questions auxquelles on a déjà des réponses, travailler dans des domaines qui sont extrêmement balisés, pour éviter le temps perdu, les tâtonnements, les impasses, etc. Et ça, c'est un appauvrissement concret de la recherche. Et il y a plusieurs années qu'on en parle, au moins 2 ans qu'on le dénonce de façon tout à fait explicite ici à l'ULB. Je me rappelle de réactions de responsables académiques qui nous disaient lorsqu'on parlait de fraude, lorsqu'on parlait de ce balisage, de cet appauvrissement des champs de recherche, etc., qui nous disaient vous forcez le trait, c'est pas le problème n'est pas si grave, etc. Depuis 2 ans, les fraudes se sont multipliées partout. Des fraudes, on en a même eu chez nous. Hein, on se croyait à l'abri de ce genre de choses. On pensait que ça, c'était pour les États-Unis, l'Angleterre, que sais-je encore. On en a aussi à l'ULB des cas comme ça. Et on peut dire que la situation s'est détériorée encore plus rapidement que nous le pensions sur ce laps de temps. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être un scientifique vraiment de mauvaise foi pour dire que on n'a pas un énorme problème par rapport aux pratiques de recherche. Ce qui ne veut pas dire, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, qu'on ne fait plus que de la mauvaise recherche. On vit dans un environnement, dans une université. Moi, je me considère comme étant entouré de tas de gens qui font des recherches vraiment de qualité, qui font des choses assez exceptionnelles, mais qui parfois ne sont pas du tout reconnu.
La recherche, on y reviendra après, mais j'aurais bien voulu vous entendre aussi sur l'autre partie de ce que vous faites au sein de cette université, c'est-à-dire l'enseignement. Quel impact est-ce que cette politique globale d'évaluation systématique, de mise en case, quel impact est-ce que ça a sur votre travail d'enseignant ? Pierre Lannoy.
Mais je pense qu'il y a d'abord il y a des évaluations qui sont organisées de manière répétée et qui d'une certaine manière imposent indirectement mais certaines visions de l'enseignement, c'est-à-dire des enseignements avant tout tirés vers le fait que ça donne accès au marché de l'emploi, par exemple, un rapport une pression de plus en plus forte pour que les cursus soient des cursus qui donnent accès au marché de l'emploi, ce qui a priori n'est pas la vocation première de l'université, en tout cas pas directement. Aussi des pressions sur certains types de contenus, par exemple les cours en anglais. Il y a une pression très très forte pour qu'il y ait des cours en anglais, ce qui peut parfois donner des situations complètement ridicules d'un pur point de vue pédagogique, c'est-à-dire des enseignants qui ne maîtrisent pas bien la langue, des étudiants qui ne la maîtrisent pas bien, et donc un contenu qui est ravagé, alors que le but c'était justement de faire un cours et pas de baragouiner en anglais. Alors là, de nouveau, il faudrait vraiment se cacher les yeux pour prétendre que tous les enseignants de l'université ici à l'ULB ou même ailleurs maîtrisent parfaitement l'anglais au point de pouvoir donner un cours un temps soit peu approfondi sur une matière. Or, c'est bien ça l'objectif d'un cours universitaire, me semble-t-il. C'est pas simplement de transmettre des modes d'emploi, c'est avant tout de favoriser, en tant qu'enseignant, et de participer à une réflexion avec les étudiants. Or, ça, ces choses-là sont de moins en moins valorisées ou rendues possibles par une série de pressions, par la réorganisation aussi des études, c'est-à-dire des cursus qui sont de plus en plus marchandisés au sens où qui font l'objet de choix très très individuels de la part des étudiants, qui donc peuvent faire leur marché en termes de cours. Et donc on se retrouve en tant qu'enseignant avec des cours qui peuvent parfois être très avancés dans le cursus, c'est-à-dire avec des étudiants qui réclament d'aller beaucoup plus loin parce qu'ils ont déjà eu toute une série de bases avant, et en même temps des étudiants qui débarquent dans ces cours en n'ayant jamais entendu parler de la matière. Mmh. Et moi j'y suis confronté très concrètement dans plusieurs de mes cours, et ça pose de vrais problèmes pédagogiques. parce que l'idée de filière, d'accumulation, et donc aussi de temps, hein, là, Olivier parlait tantôt du temps, c'est pas seulement dans la recherche, c'est aussi l'idée d'une formation universitaire, c'est l'idée quand même qu'avec le temps, dans l'avancement de la formation, se développe quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion disciplinaire ou pluridisciplinaire, peu importe, mais qui est, et par rapport à ça, l'excellence, c'est on peut passer partout comme on zappe à la télé d'un programme à un autre. Et, ben, les gens sont suffisamment intelligents, hein, s'ils construisent eux-mêmes leur parcours, ils pourront y arriver. Oui, mais l'enseignant face à ça, c'est très difficile. Moi, j'ai le cas d'étudiants qui se disent « Ah oui, mais on passe trop de temps sur des choses simples », les autres qui me disent « Vous allez trop vite sur... » Mais c'est le fait, je n'accuse pas du tout les étudiants, c'est le fait même de la mise en organisation des cursus d'études qui sont eux-mêmes liés à cette idée « Il faut pouvoir être attractif sur le marché des études » et donc en offrant des possibilités de parcours, les gens doivent... Enfin, cette idée globale, chaque individu est un consommateur de produits, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou ailleurs, c'est ça aussi qui passe par les politiques d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut répondre, nous devons organiser l'université face à des consommateurs de savoir. C'est ça l'excellence et c'est ça que nous...
Bien voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Chloé Deligne, à Pierre Lannoy et à Olivier Gosselin de m'avoir accordé cette interview. La semaine prochaine, la suite, bien sûr. Nous verrons, après avoir vu ce qu'était l'excellence et l'impact qu'elle avait, nous allons nous concentrer plus sur la désexcellence et ce qu'elle sous-entend, ce qu'elle apporte. Avec elle. D'un point de vue musical, vous avez eu l'occasion d'entendre au cours de cette émission des morceaux de Front de 4-2 et un morceau des Young Gods. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine. On se donne rendez-vous jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous tous très bien. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette histoire de savoir version vie pratique à l'ULB, histoire de savoir un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre l'interview entamée la semaine dernière, interview en compagnie de trois enseignants et chercheurs, Chloé Deligne, Olivier Gosselin et Pierre Lannoy, avec eux nous avions parlé d'excellence. L'excellence est ce que certains oseraient appeler un fléau qui s'est abattu sur les universités un peu partout dans le monde depuis une bonne dizaine d'années et qui a eu pour effet de transformer quand même en grande partie le travail des chercheurs et des enseignants. Alors avec eux, on avait vu ce qu'était l'excellence et puis ils nous ont également parlé du mouvement qui a vu jour un peu partout et en partie également à l'ULB, qui est ce mouvement appelé la désexcellence. Ils ont d'ailleurs écrit une charte de la désexcellence, nous y reviendrons. Et donc on va continuer sur ce sujet avec eux. Pierre Lannoy et Olivier Gosselin avaient lors de l'interview précédente déjà évoqué ce que l'excellence avait comme impact sur leur vie en tant que chercheur et enseignant. Je vous propose d'écouter maintenant ce que Chloé Deligne a à dire sur ce sujet.
C'est quelque chose que vous constatez aussi, Chloé Deligne, dans votre...
Sans doute que j'ai moins d'expérience d'enseignement pour parler comme Pierre. Puis moi, j'ai un statut de chercheuse enseignante et peut-être moins d'enseignante chercheuse, enfin, pour le mettre dans cet ordre-là, mais peu importe. Je vois très bien ce qu'il veut dire, même si moi, je ne suis pas encore confrontée tout à fait à ça. Non, mais je vois des tas de pratiques surgir chez les étudiants. Donc, il y a celles que Pierre vient d'expliciter un peu, le marché, on va piquer à gauche, à droite. Et puis, il y a aussi les capitalistes des études, c'est-à-dire ceux qui font 4 cursus à la fois. Hein, parce que pour se positionner sur le marché de l'emploi, pour être sûr d'avoir plein de cordes à son arc, il faut se blinder, quoi. Et puis, le diplôme, hein, la quête du diplôme, absolument, quoi. Et donc, j'ai à plusieurs reprises des étudiants qui font, bon, alors c'est des cursus qui sont plus ou moins complémentaires, on peut discuter de ça, donc, mais qui vont faire droit, histoire de l'art, histoire et encore autre chose. Et puis évidemment, qui dans l'organisation d'un cours posent plein de questions, puisqu'ils peuvent pas être présents. Ou qu'il y a des conflits d'horaires, enfin bon, ça, les conflits d'horaires aussi, évidemment. Donc ça, on voit apparaître des tas de choses, je suis sûre qu'il y a plein d'autres exemples à donner. Une autre chose que je constate dans ma pratique d'enseignante, c'est que comme on est appelé sans cesse à cette incantation à l'excellence qui passe par la visibilité, on doit faire des tas de choses pour montrer et rendre visible ce qu'on fait. Donc, il suffit plus de faire, il faut rendre visible. Et parfois, il faut même rendre visible des choses qu'on fait pas. Donc, ça, c'est vraiment ça. Et ça prend un temps fou. Et donc on est dans des processus où il faut aller à gauche, enfin de manière beaucoup plus forte et de manière pressante, je dirais peut-être qu'il y a quelque temps, aller à gauche, à droite, être dans des circuits internationaux, ce qui est pas mal en soi, hein, mais c'est la multiplication,
l'obligation, la
production de rapports en tout genre, d'être dans 1000 choses à la fois, et qui laisse évidemment moins de temps à l'enseignement, voilà, moins de temps à la recherche probablement, enfin. Quels sont les chercheurs qui aujourd'hui, enfin, je pose vraiment une question naïve, mais qui peuvent dire, ben voilà, ça fait 5 ans que je travaille sur ce dossier et là, je commence à être content de ce que je fais. Et éventuellement, je le transmettrai ou je le transmets dans mes enseignements. Voilà, c'est mon truc, c'est ce dossier-là. Qui est capable de faire ce que Englert a pu faire tu disais 50 ans, je sais pas si c'est 50 ou 40, mais qui a encore la force de caractère de se dire non, moi je suis centrée sur ce dossier-là, c'est là-dessus que je pense que à terme je vais produire quelque chose de bien. sans être excellent. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de dire ça. Et du coup, on a aussi une impression d'un fractionnement terrible du temps. Mais ça traverse l'université, ça traverse des tas d'autres composantes de la société. Donc, ce rapport au temps, en fait, est quelque chose qui nous fractionne, mais qui déboussole complètement aussi notre rapport à la matière et au contenu.
J'ajouterais pour l'enseignement que la situation est fort différente de la situation de la recherche. C'est-à-dire que la recherche, il y a toute une série de pratiques, de méthodes, d'outils qui sont connus, qui se transmettent d'une génération de chercheurs à l'autre, même si les choses évoluent, etc. Et il est plus facile dans ce domaine-là de voir à quel point certaines injonctions, certaines politiques mises en place ces dernières années freinent ou font obstacle à de bonnes pratiques de recherche et comme vient de le dire Chloé, le fait de se focaliser sur quelque chose de manière à pouvoir dire au terme de 5 ans par exemple, 10 parfois, je commence à bien le faire. On n'est pas du tout parti de la même situation dans l'enseignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pédagogie au niveau universitaire, est inexistante. Alors, quand je dis qu'elle est inexistante, je ne dis pas qu'il n'y a pas des spécialistes de la pédagogie. On forme des tas de personnes et nous avons des gens en pédagogie qui sont absolument remarquables. Mais le système universitaire fait que, contrairement au secondaire, contrairement au primaire, contrairement au jardin d'enfants, on ne se pose pas de questions. On se retrouve un jour investi d'une mission d'enseignement parce que on est titulaire d'une thèse de doctorat ou parce qu'on est assistant, peu importe, et on n'a pas eu de formation. On est jeté là-dedans, pour le meilleur et pour le pire, avec un modèle qui est le premier modèle qui vient à l'esprit, c'est quels sont les cours que j'ai reçus moi-même, comment on enseigne à l'université, comment on fait dans un amphi, dans une salle de séminaire, etc. Et ça se poursuit comme ça de génération en génération. Les conseils pédagogiques qui existent en nom sont les derniers endroits dans lesquels on parle de pédagogie, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Des mauvaises raisons, c'est parce qu'on n'a jamais le temps et qu'on est toujours pris par d'autres choses. Des meilleures raisons, mais qui ont un effet pervers, c'est la liberté académique. Et c'est le fait que, pour rien au monde, on peut se permettre... Je pense que ça reste une chose assez importante, même si, encore une fois, ça a des mauvais effets. On ne peut se permettre de désigner l'un ou l'autre collègue en disant « vos pratiques d'enseignement me semblent problématiques » ou « vous me dites de faire ça, mais je ne vois pas... » Bon, ça, c'est plus facile d'en discuter éventuellement si on sort des questions de personnes. Donc, on est un peu perdu et... Dans ce vide, en termes de pédagogie, se sont imposées toute une série de nouvelles mesures, sont en train de s'imposer une série de nouvelles mesures, avec notamment la construction des fameux référentiels de compétences, qui sont une extraordinaire liste de mots creux, hein, qui ne sont pas nécessairement dénués d'intérêt à la base, mais qui se sont traduits concrètement, parce qu'il n'y a pas de réflexion pédagogique, par une série de choses qui sont sans prise avec la réalité, sans prise avec l'enseignement. Et donc, on a beaucoup plus de mal à pointer les carences, les déficits, les problèmes qui se posent en matière d'enseignement, alors que la mission première de l'université, c'est quand même l'enseignement. Et que nos fameux clients, puisque c'est comme ça qu'on appelle désormais nos étudiants, ce sont d'abord des personnes qui sont venues ici pour apprendre. Et ce que Pierre, ce que Chloé explique par rapport à ce qui se fait dans les pratiques actuelles, on risque d'avoir beaucoup plus de peine à s'en sortir. Parce qu'on n'a pas ces repères, on n'a pas cette façon d'avoir... On n'a pas la sonnette d'alarme qui s'allume de façon aussi facile ou rapide que dans le domaine de la recherche.
Alors pour peut-être faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, si justement on parle d'une espèce de marché, tout à l'heure Chloé Deligne, vous disiez les plaquettes des universités sont toutes similaires, on ne met jamais la singularité de l'un ou de l'autre en avant. Est-ce que ça se traduit aussi dans l'enseignement, dans la manière dont l'université voit l'enseignement, et donc plus concrètement dans ce qu'on peut enseigner et ce qu'on ne peut pas enseigner? Et sous question, est-ce que du coup certains enseignants se retrouvent à devoir enseigner des matières qui étaient peut-être pas leur matière de spécialisation, je veux dire, ou une matière qui leur plaît, ou une matière de prédilection, ou voilà, est-ce que l'université peut se retrouver à dire, vous allez donner tel cours? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là?
En ce qui me concerne, je n'ai jamais vécu cette situation. Mais j'ai un recrutement à l'ancienne, c'est-à-dire que je suis parti en grimpant les échelons progressivement et on m'a laissé une liberté totale ou vraiment énorme au niveau des cours. Maintenant, le nouveau système qui est en place quand même depuis quelques années, qui est des nominations de chaires, on définit quand même des enseignements et puis on va recruter une personne pour donner ces enseignements. Certaines chaires sont relativement homogènes, d'autres incorporent des cours qui partent parfois dans des directions assez distinctes, assez différentes. Et donc là, je me demande si on ne demande pas de faire le grand écart à certains enseignants.
Moi, il me semble, mais je me trompe peut-être, que cette transformation de l'université au niveau enseignement passe moins par la transformation des contenus, au sens où on enseignerait dorénavant des matières qui seraient favorables à telle ou telle vision du monde, encore qu'il y en a bien sûr. Mais ça passe, à mon avis, surtout par la mise en forme, l'organisation, la conception même des études, de ce que c'est un cursus ou un master qu'on va ouvrir, parce qu'il va attirer des étudiants. Alors, c'est ça la logique. Et un autre qu'on va fermer parce qu'il n'y a effectivement plus que 5-10 étudiants. Mais cette matière-là, qui va l'entretenir d'une certaine manière et c'est ça le problème, à mon avis, de la politique de l'excellence, c'est que l'université se donne de moins en moins l'objectif d'entretenir et de transmettre des manières de penser qui ne sont justement pas celles que les clients ont déjà en arrivant. Or, on va de plus en plus vers ça, c'est-à-dire vers une offre qui va plaire à ceux qui vont arriver. Or,
absolument.
La spécificité, à mon sens, de l'université, c'était justement de dire, nous ici, on fait peut-être des trucs qu'on ne fait pas ailleurs, mais c'est notre mission, je dirais, sans grand mot historique, c'est-à-dire qu'on est le chaînon de gens qui transmettent des choses, des manières de penser, des questions qui ne sont pas celles nécessairement du temps présent. Alors, je ne dis pas qu'il faut être déconnecté, je suis sociologue, donc pas quand même pas tout à fait déconnecté des questions du présent, mais c'est aussi la manière de les poser, les questions du présent. Et ça, cet esprit critique par rapport à ça, il est très peu présent dans la conception des programmes. Donc c'est plus par ces formes d'organisation-là, je pense, que ça passe, que par des contenus en particulier. Alors c'est sûr que si votre terrain, votre matière disparaît, c'est clair que vous ne pourrez plus l'enseigner non plus, ça c'est certain.
Mmh. Oui, moi je pense pas que ce soit un problème qu'une université abandonne un domaine de recherche. Ça, c'est la vie des institutions aussi. On ne doit pas absolument tout garder, mais c'est plutôt dans l'organisation de comment on change que le problème se pose. C'est-à-dire que la manière d'orienter la régénération des contenus, etc., c'est orienter marché d'étudiants. Vraiment. Et climat de concurrence, de compétition. Ah, eux, ils ont fait ça. Alors, nous, on va faire ou bien la même chose, ou bien justement l'inverse. Mais en tout cas, c'est toujours par référence à ce que d'autres ont fait. Enfin, c'est hallucinant, comme on est sans cesse les yeux... je parle pas spécialement pour moi, mais en tout cas, des pratiques qui sont très... C'est d'aller voir ce que font les autres universités, quoi. Enfin, c'est hallucinant... Cette compétition et cette concurrence dans l'organisation des enseignements est quand même très forte, très très forte.
Les yeux rivés sur le nombre d'étudiants inscrits, c'est chaque année, ça devient le marronnier universitaire au mois d'octobre, au mois de novembre, on tire les conclusions. Alors, on est en progression, on stagne, on est en récession, grave récession.
Oui, alors évidemment, le système est en plus accentué par le fait que dans notre toute petite confetti de communauté française, l'enveloppe est fermée, etc. Mais c'est une excuse, enfin, je veux dire, je pense pas que ce serait foncièrement différent, même avec des enveloppes plus ouvertes.
Je pense qu'un bon, façon, une bonne illustration de ça, c'est la question de l'attirance des étudiants étrangers.
Ouais, bah oui.
Et là, c'est clair que ça ne se pose plus qu'en termes de marché, quoi. Alors, qu'on m'entende bien, j'ai rien du tout contre les étudiants étrangers, loin de là, c'est pas du tout. Mais la manière dont on veut les attirer, pas pour qu'on puisse dire on a autant d'étudiants étrangers, point, c'est tout.
Parce que dans le ranking, c'est probablement un critère d'évaluation. Donc je disais que j'en avais rien à cirer. Mais...
on a eu des appels très clairs à attirer des étudiants de Chine, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? En termes de contenu, rien. C'est la pure... effectivement, on fonctionne à enveloppe fermée ici, mais... Il y a des appels d'air en termes de nombre potentiel d'étudiants et c'est ce marché global-là qui est en jeu et par rapport auquel, du coup, il faudrait faire des offres qui puissent attirer ce genre de clients.
Alors, je proposerais bien qu'on parle maintenant de des excellences et peut-être voir avec chacun d'entre vous à quel moment c'est fait... c'est fait de la lumière. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, là, on est vraiment sur une pente trop glissante et qui ne nous convient pas du tout?
Bon, en ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs années où je me sentais extrêmement déprimé dans l'université. J'avais vraiment plus beaucoup de plaisir à faire une série de choses et enfin, je me sentais plus bien dans l'institution. Et bon... Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a vécu au niveau des laboratoires de recherche une évaluation où j'ai pu mesurer l'intelligence, entre guillemets, de la grille d'évaluation et avoir, au moment de la restitution des résultats de l'évaluation, un bref échange avec les évaluateurs qui m'ont fait comprendre qu'on vivait sur des planètes différentes et que ce qu'on cherchait, manifestement, c'était pas la même chose. Nous n'avions pas du tout la même conception de la recherche, puisque là, il était bien question d'évaluation des pratiques de recherche. Alors, j'ai ruminé ça pendant un certain temps et ça n'a vraiment pas amélioré mon rapport à l'institution à l'époque. Et un exutoire était l'écriture d'un texte dans lequel j'ai employé la notion de désexcellence et j'ai repris aussi le terme slow science qu'avec une série d'amis ici on pensait avoir inventé. On s'est vite rendu compte qu'on n'avait rien inventé du tout et que le terme slow science existait déjà à gauche et à droite. Et ce qui a été vraiment le moment de basculement pour moi, c'est que ce texte que j'ai envoyé à une série d'amis et de collègues a été répercuté par eux-mêmes à d'autres amis et collègues, etc. Et qu'en un été, ça a fait boule de neige et j'ai commencé, à mon retour de vacances, à recevoir des tas de mails de gens que je ne connaissais absolument pas, particulièrement le texte est écrit en français, donc c'était particulièrement en France, qui me disaient « mais votre texte met vraiment le doigt sur des choses qu'on ressent, etc. » C'est vraiment, on vit la même chose. Et avec des tas de témoignages, et puis ce texte a été mis sur le blog de Paul Jorion avant d'être publié dans une revue en Belgique, et sur le blog de Paul Jorion, c'était la même chose. C'était plein de commentaires, et puis j'ai été contacté encore par toute une série de personnes. Et plein de témoignages étaient des témoignages, je peux dire poignants, sur la dureté de ce que vivaient les gens, sur l'état psychologique dans lequel ils se trouvaient, avec toujours des personnes qui, à la base, faisaient des choses qu'ils aimaient, qui avaient envie de faire le mieux qu'ils pouvaient, qui voulaient vraiment en donner d'eux-mêmes, et qui était littéralement acculé dans un coin à se rendre compte qu'en suivant ce qu'on leur demandait de faire, ils faisaient des choses médiocres. Ils étaient absolument en dessous de ce qu'ils étaient capables de faire et ils en souffraient terriblement. Voilà, donc ça c'était vraiment pour moi un point. Et le fait de recevoir autant de messages de personnes qui disent « on ressent la même chose, on vit la même chose », hors de ma propre institution, est déjà une manière de dire « ok, ça va, je ne suis pas fou ». Ou en tout cas, je ne suis pas... Ce n'est pas simplement moi qui suis un inadapté, parce qu'on dit beaucoup, hein, c'est dans ce management de l'excellence. Si vous refusez les transformations, c'est parce que vous êtes incapable d'assumer la transformation de la société, vous êtes rétif au changement, etc. Donc le fautif, c'est vous.
Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre.
Vous êtes contre, oui. Voilà. En ce qui me concerne.
Moi, je dirais que... Oui, j'ai l'impression que les récits... Enfin, je ne sais pas, peut-être les récits vont être un peu similaires. C'est vraiment à partir de... Et je pense que c'est très présent aussi dans... Est-ce qu'on peut appeler ça un mouvement ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, dans l'initiative de collective qui a suivi, c'est partir d'un ressenti et d'une expérience et pas du tout d'une théorie ou d'une analyse des théories sur la transformation de l'université. Donc j'ai l'impression que en tout cas pour moi, c'est simplement des échanges de couloirs au départ, c'est de dire mais enfin tu te rends compte de ce que ils nous demandent de faire et tu trouves pas ça incroyable? Et puis de fil en aiguille, il dit ah mais il y a le texte d'Olivier qui est sorti, tu devrais le lire, ça fait du bien, etc. Et voilà, et c'est parti de là. Mais je pense que c'est, enfin Olivier l'a dit, mais c'est vraiment finalement au niveau de nos pratiques, et c'est ce qui marque aussi finalement la manière dont on réagit, c'est par nos pratiques. C'est finalement pas tellement, enfin en tout cas c'est le... Tu parlais des objectifs tout à l'heure. On peut peut-être y venir. Je pense pas qu'il y ait des grands, une grande théorisation de stratégie, etc. Si ce n'est celle de faire attention à nos pratiques, parce que c'est dans nos pratiques que ça se passe. Voilà.
Mm-hmm. Pierre Lannoy.
Je dirais. Enfin, ça peut se décliner à différents niveaux, mais c'est vrai qu'au niveau personnel, l'épreuve de l'évaluation de la recherche qui a eu lieu dans nos départements a été effectivement un moment, pour moi, tout à fait, enfin, pas déclencheur, mais confirmateur d'une série de choses dormantes. C'était très clairement, il faut savoir que l'exercice était aussi présenté par l'université comme volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation extérieure à l'université, c'était l'université elle-même. À la fois, d'une certaine manière, la bêtise, entre guillemets, des évaluateurs, mais aussi l'instrumentalisation de ces moments-là, pour certains, pour se positionner dans l'université. Avec toujours ce discours que je trouve extrêmement dérangeant, on n'y croit pas non plus. Mm-hmm. Mais il faut bien. Ouais. Ce qui est absolument insupportable, parce que, d'autant plus sur des exercices qui se disent volontaires, alors si on n'a pas la volonté, ne le faisons pas. Alors, ça, c'était vraiment... Je pense qu'au même moment, il y a eu quand même... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la réforme des universités en France, sous Sarkozy, qui a quand même été dans le même... C'est vraiment assez marquant, et avec pas mal de résistance aussi. Donc, pas mal de débats sur c'est quoi l'université. Ça se passait à peu près en même temps. Et puis alors, effectivement, au niveau, je dirais, individuel, beaucoup de gens autour, beaucoup de gens qui constatent ces transformations, en fait, mais qui... alors, on en parle au café, on en parle dans les couloirs, mais après, de trouver d'autres qui étaient prêts à en parler, je dirais, à visage découvert, si on peut dire ça... Ça a été un moment. Pourtant, je ne peux pas dire que j'ai pas connu la vieille université. Je suis encore relativement jeune, donc c'est pas un regret d'une situation antérieure. Moi, je suis plongé dedans, mais j'ai très naïvement, quand on a commencé à dire oui, mais c'est quoi les impact facteurs de tes publications et machin, je me dis mais de quoi on parle, quoi, hein, de quoi ? Je suis pas là pour ça. Voilà, c'est différentes choses là qui m'ont amené à participer à ça. Et puis ça a pris dans un petit collectif. Et ça, c'était aussi une belle expérience de pouvoir partager. D'ailleurs, la première journée qu'on avait organisée, je ne sais plus quand.
Bientôt deux ans.
Moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est le nombre de témoignages, on pourrait dire ça comme ça, effectivement, comme tu disais. extrêmement convergents sur l'impact que ça a sur les pratiques quotidiennes d'enseignement et de recherche. Et c'est de là qu'on est reparti pour faire la charte. C'est des pratiques et pas effectivement sur des grandes théories de transformation du monde. Hein. C'est pas ça du tout.
Alors, le mot a été lancé, effectivement, ce mouvement qui, vous le disiez, Chloé Deligne, il y a 2 ans, vous vous êtes réunis pour la première fois.
En fait, on s'est vu avant, disons,
faire une journée, voilà, la journée de la désexcellence. ça a donné naissance à une charte de la désexcellence, charte donc vous disiez, enfin qui insiste sur les pratiques. Alors quels sont justement ces pratiques? Quels sont les éléments que vous voulez défendre à l'aide de cette charte de la désexcellence? Comment doit-on pratiquer pour être un bon désexcellent?
Pour dire peut-être de manière générale, il s'agit pas du tout de faire un portrait du bon chercheur ou du bon enseignant. Il faut se donner les moyens de lutter contre un processus qui étouffe ce pourquoi on estime être à l'université. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est de dire, c'est dans nos pratiques concrètes qu'on peut lutter contre ça. Et donc, ça se décline en 3 parties, qui sont d'ailleurs les 3 missions de l'université, recherche, enseignement et service à la société. Et sur chacun de ces points, on a essayé de repérer...
Et administration, pardon.
Tout à fait. Oui, parce que on va y revenir sur la question de qui parle finalement, mais sur chacun de ces points, de voir très très concrètement dans les pratiques de publication, dans les remplissages de dossiers, etc., comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, s'opposer à l'entrée de cette logique de l'excellence dans le fonctionnement de nos métiers.
Eh bien voilà, si vous avez envie de savoir ce que Pierre Lannoy lançait comme piste en fin de programme, c'est-à-dire comment être un des excellents et quelque part comment lutter de l'intérieur au sein du système, eh bien je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi prochain pour la 3e et dernière partie de cette émission. Et d'ici là, eh bien portez-vous tous très bien. Au revoir. à toutes et à tous, bienvenue pour cette histoire de savoir version vie pratique à l'ULB, histoire de savoir un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous allons suivre la troisième partie de l'interview de Pierre Lannoy, Chloé Deligne et Olivier Gosselin. Tous trois sont chercheurs et enseignants ici à l'ULB. Au cours des deux semaines précédentes, nous avons parlé avec eux d'excellence, de ce fléau qui s'est abattu sur les universités, on va dire, du monde entier. Nous avons également parlé du mouvement qui est né en réaction à l'excellence et qui est la désexcellence. Et donc aujourd'hui, nous allons voir avec eux ce qu'on retrouve dans la charte de la désexcellence qu'ils ont écrite avec d'autres collègues, ou peut-être plus prosaïquement, nous allons voir avec eux comment s'opposer, comment miner ce système de l'intérieur. Voilà. Donc je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Chloé Deligne, Pierre Lannoy et Olivier Gosselin.
Alors, le mot a été lancé, effectivement, ce mouvement qui, vous le disiez, Chloé Deligne, il y a 2 ans, vous vous êtes réunis pour la première fois.
En fait, on s'est vus avant, disons,
faire une journée de la désexcellence. ça a donné naissance à une charte de la désexcellence, charte donc vous disiez, qui insiste sur les pratiques. Alors quels sont justement ces pratiques? Quels sont les éléments que vous voulez défendre à l'aide de cette charte de la désexcellence? Comment doit-on pratiquer pour être un bon désexcellent?
Non, pour dire peut-être de manière générale, il s'agit pas du tout de faire un portrait du bon chercheur ou du bon enseignant. Il faut se donner les moyens de lutter contre un processus qui étouffe ce pourquoi on estime être à l'université. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est de dire, c'est dans nos pratiques concrètes qu'on peut lutter contre ça. Et donc, ça se décline en 3 parties, qui sont d'ailleurs les 3 missions de l'université, recherche, enseignement et service à la société. Et sur chacun de ces points, on a essayé de repérer...
Et administration,
tout à fait. On va y revenir sur la question de... qui parle finalement, mais sur chacun de ces points, de voir très très concrètement dans les pratiques de publication, dans les remplissages de dossiers, etc., comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, s'opposer à l'entrée de cette logique de l'excellence dans le fonctionnement de nos métiers.
Et comment alors? Comment peut-on miner le système de l'intérieur?
D'abord, le maître mot, c'est désobéir. Utiliser la liberté académique, la charte est une invitation à la désobéissance. En tout cas, à la désobéissance par rapport aux injonctions que nous recevons maintenant. On va pas faire l'exercice de lire la charte dans le détail. On peut prendre éventuellement les grands points. Ce qui est peut-être important d'abord, c'est de dire, parce qu'on a essayé de clarifier les choses, 2 années à utiliser le terme des excellences, à discuter avec les gens, à avoir des échanges, etc. Cette charte, ça fait un paquet de mois qu'on l'écrit. Il y a eu plusieurs versions, elle a été commentée par toute une série de personnes. Une des premières choses essentielles, c'est de bien rappeler qu'en invitant à la désexcellence, on ne le répétera jamais assez, on invite à la désobéissance, on n'invite pas à un abaissement de la qualité. Alors, il y a un grand risque, si nous mettons le terme qualité en avant, à ce qu'il soit également dévoyé et qu'on substitue le terme excellence à celui de... qu'on substitue le terme qualité à celui d'excellence. Mais bon, nous faisons une idée de ce qu'est la qualité d'un travail. La qualité d'un travail est un travail qui procure d'abord de la satisfaction pour soi-même et qui procure de la satisfaction aux autres. La satisfaction qu'on peut avoir par rapport au travail d'un collègue, c'est éventuellement une pointe de jalousie parce qu'on trouve que c'est tellement bien fait qu'on aurait bien aimé le faire soi-même, et je pense que ça, ce n'est absolument pas un problème, mais quelque chose qui va plutôt inviter au partage et à l'émulation, en disant si cette personne est parvenue à faire ça, j'aimerais bien aussi. Idem en matière d'enseignement. Tiens, là, il y a des gens qui font des choses, c'est intéressant, j'aimerais bien expérimenter ça moi aussi, etc. Donc quelque chose qui procure de la satisfaction, qui arrête d'infantiliser les personnes auxquelles on s'adresse, quels qu'ils soient, parce qu'une des caractéristiques actuelles, c'est que les étudiants sont des clients tout puissants, mais en même temps, on les infantilise totalement, on ne se préoccupe finalement pas du tout de ce qu'ils ressentent en suivant les enseignements, de la manière dont leur point de vue se modifie, etc. C'est pas du tout des choses qui sont prises en compte, mais au contraire, on a une série d'injonctions en disant voilà ce que vous devez faire, voilà la matière que vous devez acquérir pour ça, telle chose, etc. Idem avec les doctorants, idem avec les collègues aussi. Il y a cette donc voilà, c'est je suis un peu dans le désordre là, mais ce sont les valeurs. Hein. Là aussi, c'est un terme qui a été fameusement galvaudé. Mais en tout cas,
on ne peut pas inventer des nouveaux mots à chaque fois.
On ne peut pas inventer des nouveaux mots, absolument. Et comme l'a dit Chloé, le point principal, hormis cette idée de désobéissance et de retrouver de la satisfaction dans son travail et avoir retrouvé l'impression qu'on fait bien les choses, en tout cas qu'on le fait du mieux qu'on peut. Hormis ça, il y a aussi cette idée qu'il faut accorder nos pratiques à nos idées, à nos valeurs, à ce qui nous paraît être important dans le cadre, par exemple, de l'enseignement. Alors, enseignement, mission essentielle des universités, les personnes qui ont conçu cette charte ont mis d'abord l'enseignement, plutôt que la recherche, étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le parent pauvre. Il nous semble que c'est le parent pauvre dans les universités et que la situation n'est pas de nature à s'améliorer dans les prochaines années. Promouvoir les logiques de savoir, promouvoir toute une série de choses, ce sont les points qu'on met en avant dans un premier temps, en rappelant toute une série de choses qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire comptabiliser, travailler sur des idées de compétences totalement désincarnées, se préoccuper uniquement de la finalité des études et penser formation en termes de qu'est-ce que ça va permettre de faire, etc. Pour reprendre une formule très, très banale, mais qui correspond quand même pas mal à l'idée qu'on se fait de l'enseignement, on ne forme pas pour un métier, on forme pour la vie. Mais la vie, c'est pas seulement le travail qu'on va faire, c'est la personne qu'on est. Et c'est tous les rapports qu'on va avoir aux autres, à des situations, etc.
Olivier parlait de désobéissance, je pense que c'est la première en matière d'enseignement et qui est difficile à tenir. C'est-à-dire, on n'est pas là d'abord pour vous apprendre un métier au sens que vous pourrez directement. Et je pense que c'est le cas pour toutes les disciplines enseignées à l'université, même celles qui semblent effectivement déboucher plus facilement sur une série de métiers.
Genre médecine.
Oui, médecine, je pense même le droit, etc. Mais la conception des études de droit, c'est pas d'abord de former à un métier, c'est de former à une manière de penser, à un univers, etc. Et ça, c'est la première désobéissance, c'est-à-dire, moi, je suis pas là pour vous apprendre un métier. C'est très difficile. C'est difficile vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des autorités, et c'est difficile vis-à-vis des étudiants, parce qu'on leur a dit, c'est ça que vous allez avoir à l'université. Et aussi, mais ça joue très concrètement, c'est-à-dire quand vous êtes vous acceptez de participer au salon des études et que vous êtes sur votre stand, voilà, les étudiants ils viennent vous dire qu'est-ce que je vais avoir comme métier avec ça. Ben dès là, il faut dire, moi je suis pas là pour vous apprendre un métier. C'est difficile quand on est assis sur son stand avec ses, et qu'il y a plein de gens devant vous qui disent qu'est-ce qu'on veut, voilà, est-ce que ça a des débouchés. Il faut expliquer que c'est pas d'abord ça. Alors si les autorités vont m'entendre, ils vont me tuer parce que c'est évidemment pas ça qu'on doit dire, qu'on nous dit qu'il faut dire. C'est-à-dire que oui, vous allez trouver un emploi, c'est certain, avec vos études. C'est pas l'objectif premier de des études universitaires. Donc c'est un exemple de désobéissance, mais qui est très très difficile à tenir concrètement dans les interactions avec les étudiants ou même avec les autorités. Sur la recherche, enfin par exemple sur les publications, on parlait des impact factors tout à l'heure, c'est de dire nous nous moquons des impact factors. Donc nous ne regardons pas où nous publions, si c'est un impact factor ou pas, ou lequel, ou la cote de la revue, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, on va même faire attention à ne pas à favoriser des publications qui seront en libre accès, et donc à dire non à des revues qui commercialisent le produit de la recherche, qui n'est pas payé par elles, mais qui sur lesquelles ils perçoivent des droits d'accès à une production faite sur des deniers publics. Et voilà, ça c'est aussi, ça veut dire qu'il faut effectivement, d'une certaine manière, regarder où on publie, non pas pour voir où ça a le plus d'impact, mais ce qu'on refuse, avec chez qui on refuse de publier.
Ou quelque part, pour voir où ça a le plus d'impact. Si on prend le terme impact en termes d'impact de société. Parce que publier dans des revues qui ne touchent que
la petite communauté,
voilà, ça n'a en fait ça a un impact en termes de ranking, mais ça n'a pas d'impact réel.
Oui, alors il y a des revues pas bien cotées ou pas cotées du tout qui sont très confidentielles aussi. Hein. Ça ne touche pas nécessairement beaucoup de monde, mais c'est clair que...
Non, mais c'est parce que vous parliez de faire mettre la recherche en libre accès, mais voilà
c'est un des principes de base. Mais en fait, la politique de l'excellence n'est pas pour ce genre de choses, au contraire.
Je dirais aussi que dans la charte, peut-être après on peut rendre quelques points, mais l'idée c'est vraiment de se dire, mais tiens, toute cette politique de l'excellence, appelons-la comme ça, par où ça passe concrètement dans mon quotidien d'enseignant et de chercheur. Et donc, cette charte va parfois chercher des choses, des cas extrêmement concrets. Ça va, enfin, j'ai un exemple en tête comme ça, c'est de dire, de plus en plus on va être confronté à des quand on veut remettre un dossier, une candidature, pour une bourse, un financement, etc., on va remplir des formulaires dans lesquels il va évidemment y avoir des cases où, en gros, on va devoir mettre des chiffres. En gros, si on exagère et si on pousse le trait à l'extrême. L'idée, c'est systématiquement de réclamer que, justement, ces formulaires permettent ne fût-ce que l'adjonction de textes libres. De réclamer qu'une annexe écrite soit transmise ou le faire spontanément. Enfin, moi, c'est, voilà, j'ai eu l'occasion de le faire, c'est-à-dire le formulaire pour lequel un candidat avec qui on travaillait avait postulé était de ce type-là. Donc, quel rang dans la promotion de sortie des études ? Est-ce qu'il était 5e sur 85 ou 10e sur 58 ? Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre. Donc, j'ai refusé de remplir la case. Et puis, on ajoute quelque chose sur le projet qui remet. Simplement, donc réclamer que ce type de... Enfin, essayer de déjouer, en fait, les choses qui nous sont imposées. Et voilà un exemple concret de choses qu'on peut faire, le faire spontanément.
On demande aussi de donner des notes globales sur le projet qu'on dépose. Le candidat, vous lui mettriez combien sur 20 ? Évidemment, je vais lui mettre 0 sur 20 puisque je le propose. Enfin non, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc c'est de refuser ça. C'est plein de choses comme ça, très concrètes. Effectivement,
pour revenir un peu à l'enseignement, qui était le point de départ, on essaye de mettre l'accent sur les exigences intellectuelles qu'on a vis-à-vis des étudiants, et donc les attentes, essayer de travailler d'égal à égal, c'est-à-dire d'adulte à adulte. Au bout du compte, il y en a un qui remet une note, quelle que soit la manière sur laquelle la note est établie, enfin, quels que soient les critères qui sont utilisés. Donc on n'est pas dans une position symétrique. Mais on peut travailler en adulte et avoir donc des échanges et considérer qu'un enseignement est le lieu dans lequel on fait émerger du savoir, pas un savoir qui préexiste, mais quelque chose qui va se construire dans une situation, dans une interaction, et qui a quelque chose d'imprévisible. Accepter l'imprévisibilité, c'est déjà pas mal, c'est déjà une chose assez intéressante sur le plan de l'enseignement. Et donc, ce sont des points qui sont repris dans la charte, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des points qui ne se présentent pas sous la forme d'un mode d'emploi. Hein. On ne va pas substituer d'autres réformes à des réformes préexistantes, mais simplement dire, voilà ce qui nous semble être des choses indispensables à faire. Les techniques, après, pour parvenir, pour remplir ces objectifs, en considérant les gens comme des adultes et comme des professionnels, c'est à chacun de voir comment il peut trouver, et comment, en s'adressant à d'autres aussi, en échangeant entre collègues, comment est-ce qu'on peut trouver les outils, les choses qui vont permettre de construire ces situations d'enseignement, et donc de préserver par les pratiques qui sont nécessairement fort diversifiées, suivant les personnes, suivant les matières, suivant les classes, suivant l'âge des étudiants, suivant les années. Pour un cours, une année n'est jamais l'autre. Enfin, tant mieux, si c'est le cas. Qu'il se passe des choses différentes. Et donc, c'est plutôt dans cet esprit-là que, en matière d'enseignement, les choses sont construites. C'est pour ça que, à la question, hein, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans la charte? Bon, maintenant, il faudrait lire tous les items. Mais
en même temps, tout ce que vous me dites est très concret. Je trouve.
Oui, sans imposer les manières d'y arriver.
Oui, tout à fait.
Et au contraire, en cultivant, et en cultivant avec un plaisir inouï la diversité, la pluralité des manières. Enfin, aucun d'entre nous ne pense qu'il y a une technique à utiliser obligatoirement pour obtenir un effet.
D'ailleurs, beaucoup de points sont formulés sous la forme de refus, plutôt que de de dire ce qu'il faut faire. On sait ce qu'on ne veut pas faire. Après. Comment le faire?
Il y a un point qui est important, parce que je nous écoutais nous-mêmes dans la première partie, et je me disais, oh là là, si quelqu'un qui écoute ça est peut-être en train de se dire, mais quelle bande de ronchons, hein, encore ces gens qui sont d'accord avec rien, toujours en train de se plaindre, hein, et en plus, c'est des profs du NIF, bien payés, un métier super, etc. Donc, de quoi ils se plaignent, hein? Qui se bougent un peu le derrière, qui se reprennent en main et qui fassent les choses. Donc, c'est vrai qu'on ronchonne beaucoup et qu'on est très critique, mais la mise en commun de nos ronchonnements et le fait qu'en se mettant ensemble, en tâtonnant, on a fini, même si le processus n'est pas terminé, mais par comprendre ce qui nous arrivait et les raisons pour lesquelles des choix politiques auxquels on n'avait jamais réfléchi nécessairement avant ont conduit à la mise en place de ce système, eh bien, le fait de faire tout ça nous a libérés. Et je parle encore une fois pour moi, mais je pense que c'est vraiment l'expérience partagée. On se sent infiniment mieux. Moi, il y a 4-5 ans, j'étais misérable dans cette université. Ça n'a absolument plus rien à voir. Moi, je me sens bien. Pas dans la structure universitaire telle qu'elle fonctionne, mais je me sens bien parmi des collègues avec lesquels je suis ravi d'interagir, et je me sens bien par rapport à des pratiques qui sont des pratiques de désobéissance que j'ai mis en place, et je me permets de plus en plus, et chaque année un peu plus. Et puis on verra bien jusqu'où ça ira. Mais du coup, j'ai enfin l'impression de refaire des choses ou de faire enfin des choses d'une façon que je trouve satisfaisante, qui m'apporte quelque chose et je l'espère qui apporte aux autres aussi.
Oui, je pense que oui, on est peut-être dans un monde où on ne peut plus ronchonner. Il faut quand même, c'est toujours en souriant qu'on vous fait passer, vous vend les choses que vous n'avez pas envie d'avoir. Quoi. Donc je ne dis pas qu'il faut ronchonner en permanence, mais le fait même qu'on ne puisse plus à un moment dire cette orientation, on n'est pas d'accord avec elle, déjà ça c'est un signe très fort. Quoi. Mais comment ça se fait que des gens s'opposent au bien commun, à ce qui est présenté comme étant le bien commun? Non, c'est normal qu'il y ait des gens qui s'opposent, et c'est bien plus sain qu'il y ait des visions différentes. Or aujourd'hui on est exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire les ronchons, donc mais qui restent chez eux. Non, heureusement qu'il y en a
Cette charte n'est pas un catalogue du bon des obéissants ou du bon des excellents. Ça, je crois qu'on l'a dit, c'est-à-dire que on sait très bien que chacun a sa, chacun, chacune a à s'approprier ce texte comme sa position, sa situation le lui permet ou pas. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est surtout un outil qui vise justement à faire émerger et à rendre visibles les choses qui se cachent derrière l'excellence, et que ça, ça a été principalement le travail de cette charte. Et que donc je pense que si on arrive à rendre visible pour des collègues de notre université des choses qui restent invisibles, bah, ce sera déjà pas mal. Et puis peut-être un troisième point, après sûrement qu'il y a des choses, c'est qu'il faut bien se rendre compte que on s'est rendu compte qu'on était tous des académiques au travail de cette charte, et que ça s'explique en partie par le fait que on n'est pas dans une situation de précarité extrême, pour le dire de manière très euphémique.
Et en même temps, on est les rouages principaux
oui.
De la politique de l'excellence. Voilà. Voilà, c'est les deux, en fait.
C'est la, la conjugaison des deux. C'est-à-dire qu'on est, c'est ça. À la fois, on est Pierre l'a très bien dit, les maillons, les relais essentiels de ces politiques. Et à la fois, on est probablement ceux qui, par ce fait, ont la plus grande marge de manœuvre par rapport à ce raz-de-marée de l'excellence. Donc voilà quelques points qui me semblent importants de dire par rapport à cette charte sur son bon sur l'émergence, on l'a dit, sur qui finalement a mis la main à la pâte ou a fait émerger cette charte, comment on peut se l'approprier ou ne pas se l'approprier partiellement ou simplement la lire en se disant ah tiens ça me donne des idées donc voilà, il y a une grande liberté là-dessus.
Pierre Lannoy.
Je pense que effectivement, c'est à la fois c'est un collectif qui l'a écrite, mais en même temps, on se pose pas du tout en représentant de la communauté universitaire au sens où on serait l'incarnation de tous les corps, si on veut parler comme ça, de l'université. Très clairement, on a relativement peu intégré le point de vue étudiant, même du point de vue administratif, des gens d'administration. On a eu des personnes d'administration, mais qui nous l'ont dit par ailleurs, ont beaucoup de difficultés à pouvoir assister à ce genre de réunion, voire même à prendre la parole sur ces questions-là. Donc c'est clair que le texte n'est pas du tout un texte universel ou qui se voudrait le représentant de n'importe quoi. C'est vraiment, d'une certaine manière, une bouffée d'air potentielle pour ceux qui le liraient et qui trouveraient des points d'accroche pour leur propre pratique. Si ça peut servir à ça, c'est déjà très bien. Ils ne visent pas non plus à compter qui est des excellents ou qui ne le serait pas. On ne va pas demander d'adhérer ou de s'affilier.
Ah, on avait prévu un badge quand même.
Un badge, voilà. Donc voilà, c'est pas du tout le... C'est, à mon sens, en tout cas, c'est de créer un espace de discussion et de réflexion autour des politiques de l'excellence. C'est à ça que ça sert avant tout, me semble-t-il.
Alors être des excellents au sein d'une université qui prône l'excellence, d'abord est-ce que c'est facile et est-ce que c'est possible pour tout le monde? Parce que tout à l'heure, Yves Gosselin, vous évoquiez les éléments les plus faibles,
fragiles.
Oui. Oui, voilà, qui se retrouvent au sein de cette institution. Est-ce que un doctorant, quelqu'un qui espère décrocher un poste, peut se permettre d'être des excellents?
Comme vient de le dire Pierre, toutes les formes. Tous les aspects de la charte ne peuvent pas être suivis par tout le monde. Et il est évident qu'un doctorant, s'il suit l'essentiel de l'essentiel de nos recommandations sur la recherche, se tire dans le pied, littéralement, dans le système actuel. Encore une fois, toute personne, tout citoyen, tout individu a la capacité de désobéir. Et la capacité de désobéir commence par le fait de se poser des questions sur les injonctions, sur les ordres qu'on reçoit, et avoir une position critique. Position critique qui, par ailleurs, est censée être une des valeurs essentielles de l'université.
Le socle commun.
Le socle commun de notre université. Donc, c'est à ça que nous invitons. Et nous pensons sincèrement que toute personne, à son niveau, a la capacité d'avoir des actions concrètes de désobéissance et des capacités à remettre ensemble correctement, à renouer les valeurs et la pratique, à retrouver une certaine harmonie et à retrouver un plaisir à faire les choses. Plus les académiques, qui sont moins menacés, mettront en pratique toute une série d'actions et constitueront des grains de sable et puis je l'espère des graviers voire des rochers dans les engrenages de la machine, plus vite on sera débarrassé de cette folie collective. Je dois vous avouer que en termes de politique universitaire, j'avais espéré que lors de certaines élections rectorales notamment, certains candidats qui vraisemblablement vont nous mener encore plus loin en matière de politique et de management de l'excellence, vont nous mener plus loin, que ces candidats soient élus de manière à ce qu'on se crache plus rapidement. Je pense que dans un mouvement de folie collective, toute une série de personnes refusent encore d'ouvrir les yeux, donc il faudra qu'on se plante contre le mur pour que tout le monde dise ah ben ok, ça va, donc on va faire machine arrière. Donc en ce qui nous concerne, le plus tôt sera le mieux.
Peut-être juste ajouter un écho à la question, c'est que il n'est pas facile d'être des excellents, mais il n'est vraiment pas facile d'être excellent non plus, et c'est peut-être encore beaucoup plus difficile justement pour les gens précaires dans cette université d'être excellents, et c'est ce système-là aussi d'une certaine manière qu'il faut dénoncer.
La désexcellence, c'est une petite poche de résistance à l'ULB. Il y a d'autres poches de résistance à l'ULB et il y a surtout d'autres poches de résistance en communauté française de Belgique, en Belgique et en Europe et hors de l'Europe. Il y en a plein. Donc il faut bien voir aussi que c'est un mouvement extrêmement général et qui est venu des praticiens et qui pointe généralement le même genre de critiques. En Flandre, le mouvement qui s'est coalisé autour de la notion de slow science et qui est lié à la mise à la porte de Barbara Van Dijk est devenu extrêmement fort, ou a bien fait parler de lui et a fait pas mal de choses. Et ils sont arrivés quand même à un résultat qui est important, parce que sans toute cette agitation, on n'en serait pas là. Non seulement la plainte contre Barbara a été abandonnée, mais Barbara vient d'être réintégrée à la KUL. Alors ça doit faire bizarre de se retrouver dans cette université qui l'a traité de cette façon-là, mais toujours est-il que grâce à ce mouvement, cette façon extrêmement intelligente et bienvenue de collègues qu'elle ne connaissait pas du tout, d'universitaires dans son université, hors de son université, hors de la communauté néerlandophone, ben voilà, ça pèse, ça fait quand même peser des choses et ça... Ça permet d'influer sur les politiques.
Oui. j'ai peur de relancer quelque chose, mais je vais quand même le dire. Non, parce que je pense que quelque chose qui n'a peut-être pas été dit jusqu'à présent, donc ça n'a rien à voir finalement à comment on sent des excellents ou excellent. Mais c'est qu'il faut bien se dire que... Enfin, c'est peut-être pour revenir au début, cette politique de l'excellence, raz-de-marée de l'excellence, ce qui est vraiment phénoménal à constater, c'est qu'elle n'a même pas les moyens de cette politique. Enfin, ça, je pense qu'on l'a pas dit, mais c'est-à-dire que à force de gonfler les biceps ou, comme le dirait Olivier, de pisser plus loin, il y a un moment donné où la machine, elle sait pas suivre. Et dans le cas des universités européennes et des universités de la communauté française, c'est peut-être encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'on se donne des objectifs en termes de visibilité qui seraient ridicules s'ils n'étaient pas graves sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est quoi? Ça veut dire qu'on pousse les gens à se tuer vraiment psychiquement à des choses dont on ne leur donne pas les moyens d'atteindre les objectifs. Simplement, voilà.
Toujours déficient.
Voilà.
Toujours donc, insatisfait et avoir toujours une image de soi qui est une image extrêmement négative en disant je suis pas capable.
Parce qu'il faut bien dire, on joue pas dans les mêmes, même à prendre leurs critères d'excellence, on joue pas dans la même cour que des universités.
Heureusement.
Oui, mais oui, heureusement, bien sûr, mais ça montre toute l'absurdité de la chose, quoi, que des universités américaines, ou enfin, qui sont fondées sur un tout autre modèle, etc.
Donc, et surtout sur d'autres modes de financement.
Et ben voilà, oui, c'est ça que je. Voilà.
Moyen.
C'est du public, quoi. Enfin, public-privé. On est... Enfin voilà, donc peut-être pour, à partir de là, rebondir sur comment est-ce qu'on se sent des excellents, mais je crois que, en fait, pour moi, se sentir des excellents, c'est renouer avec du sens. Voilà, tout simplement. Et que ça fait du bien.
Et bien voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir sur ces très belles paroles de Chloé Deligne, la des excellences et redonner du sens. Je vous donne rendez-vous eh bien jeudi ou vendredi prochain pour un autre histoire de savoir. Au cours de ce programme, vous avez eu l'occasion d'écouter les Queens of the Stone Age et les Hives. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et donc, rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous tous très bien. Au revoir.